Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Sophie au 3921. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous ?
Ça va.
Bon. Alors, dites-moi tout.
Ben, je vous appelle parce que, en fait, voilà, j'ai été aidante pendant plus de 8 ans
oui.
auprès de ma maman qui était Alzheimer. Qui est décédé, ça va bientôt faire 2 ans, le 17 décembre prochain.
D'accord.
Et je l'ai gardé à la maison jusqu'au bout.
D'accord.
Jusqu'à son dernier souffle.
On avait un auditeur la semaine dernière qui, je ne sais pas si vous l'avez écouté, qui nous appelait justement pour évoquer aussi le fait qu'il avait gardé sa maman jusqu'au bout. Mmh. Et il soulignait l'importance... De ce moment-là, de tous ces moments-là vécus ensemble. Est-ce qu'il en est de même pour vous ? Est-ce que aujourd'hui, c'est important pour vous, pour votre équilibre, d'avoir vécu jusqu'au bout avec elle ?
Oui, tout à fait. Et je ne le regrette pas, même si 2 ans après, je suis toujours dans l'épuisement.
Oui.
Parce qu'en plus, j'ai fait un burn-out pendant la période, mais qui était due à mon côté professionnel. Et je me suis occupée d'elle grâce aussi aux aides de 2 auxiliaires de vie. Et je ne regrette pas. Et s'il fallait recommencer, je le recommencerais. Parce que sinon, je n'aurais pas pu me regarder en face de la laisser partir. Je n'accuse pas les maisons de retraite parce que j'y ai travaillé. Mais vous voyez, des parents qui, d'un seul coup, ont des enfants ou même qui ont des enfants handicapés, on fait tout pour les soigner, pour les garder auprès d'eux. On les met pas forcément en institution. Alors, je me suis dit, pourquoi nos parents qui nous ont élevés, soignés pendant qu'on était enfants, qui nous ont aidés à passer tous les caps difficiles, pourquoi on ne renverrait pas l'ascenseur ? Eh ben, c'est ça que j'ai fait. Et je suis fière de ce que j'ai fait et je le referai sans aucun doute.
Mais vous avez raison. Je pense que lorsqu'on on choisit ce chemin-là, je pense que c'est... d'abord, c'est un chemin auquel on a pensé depuis longtemps, non ? Vous étiez projeté dès que votre maman est tombée malade dans cette décision-là ? Est-ce que ça a été une décision... Alors, pas évidente à prendre, sans doute, mais vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous êtes projeté dans cette décision ?
Au début, j'ai cherché, j'ai visité quelques maisons de retraite. J'étais mal avec ça.
Oui.
Je ne sentais pas les lieux. Je voyais les lieux, les odeurs, tout. J'avais l'impression que j'allais l'enfermer. Et... voilà, que j'aurais pu le droit à faire quelque chose pour elle, à part venir lui rendre visite. Et en fait, ma mère avait gardé sa propre grand-mère à domicile jusqu'à son décès. Donc, quelque part, c'est une continuité, sans que je m'en sois rendu compte. Je m'en suis rendu compte que vraiment très tardivement.
Oui.
Et en fait, c'était une suite logique. Comme avant, les parents restaient chez leurs enfants et vice-versa. Et en fait, moi, j'ai rétabli la même chose sans m'en rendre compte. Et puis après, je me suis dit, bon, peut-être que je la mettrai à un moment donné en maison de retraite quand j'y arriverai plus. Puis en fait, j'ai vécu au jour le jour et j'ai eu la chance de trouver d'excellentes auxiliaires de vie sans qui, si elles n'avaient pas été là, j'aurais pas pu faire ça.
En quoi elles vous ont soulagé, en fait, parce que votre maman, je suppose, oubliait, elle partait, elle voulait s'échapper
Non, elle n'était pas du genre à s'échapper. Elle n'aimait pas marcher, donc c'était pas du genre à partir. C'est que moi, je travaillais avec des horaires décalés. Et ça lui permettait de continuer à dormir le matin et de pas être dans le rythme
de la maison
comme une maison de retraite. Voilà, elle avait son propre rythme. Enfin, elle pouvait dormir alors que des années auparavant, elle n'arrivait pas à dormir. À 2 heures du matin, elle était réveillée. Là, je pouvais enfin respecter son sommeil. Si elle pouvait dormir jusqu'à 10 heures, je la laissais dormir jusqu'à 10 heures. Elle avait une qualité de vie, ce qu'on recherche tous. Et les auxiliaires arrivaient, enfin une auxiliaire, puisqu'après c'était l'une le matin et des fois l'autre l'après-midi. Et elle s'adaptait à son rythme. Et on essayait la douche et quand on n'y arrivait pas, ben on faisait autrement. Et puis elle faisait le petit déjeuner. S'il fallait l'emmener se promener, on l'emmenait se promener. S'il fallait faire des animations, on faisait des animations. On faisait tout pour elle. Tout était centré autour d'elle.
Et vous, en fait, vous habitiez avec votre mari, vos enfants
Non, ou... je suis célibataire.
D'accord.
Et voilà, j'ai décidé de prendre maman parce que je savais qu'elle, son vœu avant d'être malade, elle s'était occupée d'une tante il y a de nombreuses années qui était en maison de retraite pendant plus de 16 ans.
Oui.
Et ça l'avait complètement secouée parce qu'elle disait... dès que je passe, tout le monde me tend la main en disant un bisou, parlez-nous, dites-nous. Et elle disait, tu te rends compte, il y en a, ils ont 8-9 enfants et ils les voient pas. Elle dit, je ne peux pas, moi. C'est simple, sa façon de venir, elle passait par l'extérieur de la maison de retraite, par une petite porte, pour éviter de passer devant toutes ces dames tellement ça lui faisait mal au cœur. Oui. Et elle dit, moi, je veux pas finir là. Je voudrais mourir d'un coup. Je veux pas vieillir, je veux pas vivre dans une maison de retraite.
Bah, il est certain que quand vous y réfléchissez, hein, quand on se projette les uns et les autres, hein, je pense que ça nous arrive de nous projeter comme ça, de nous dire qu'un jour, ça sera notre tour hein, de vieillir.
Bah, voilà.
Et il est vrai que l'idée de se retrouver dans une maison de retraite, c'est pas joyeux. Hein.
Non, c'est pas joyeux. Si on a le choix,
Ouais. Et il est vrai qu'ici en France, on n'a pas cette tradition-là vis-à-vis de nos parents.
Plus. Je pense qu'on ne l'a plus.
Ouais.
Depuis les années 50-60, on ne l'a plus.
Vous me disiez que vous aviez fait un burn-out, mais qu'il était plus lié à votre métier. Que faisiez-vous?
Oui. Je suis infirmière.
D'accord, vous êtes infirmière. D'accord.
Ça a commencé enfin en septembre 2016 et mon médecin m'a dit que c'était un burn-out, mais n'a pas voulu faire les papiers en bonne et due forme, on va dire. Donc, en fait, j'ai perdu la moitié de mon salaire pendant 18 mois. Oui. J'ai retravaillé en mars 2018 parce que financièrement, je ne tenais plus. J'ai dépensé toutes mes économies pour vivre. Et continuer à payer aussi des aides pour maman, parce que ça coûte quand même.
Pourquoi en fait vous n'avez pas été aidée? Je n'ai pas compris.
Parce qu'il n'a pas voulu faire les papiers correctement. Il m'a dit que ça n'était pas pris en charge, alors que si on avait simplement marqué dépression par épuisement professionnel, ça passait.
Ah ouais.
Voilà.
Ouais,
et j'ai vu plein d'autres médecins traitants pour passer en commission médicale avant, qui m'ont dit si on pouvait tout à fait faire ce papier, c'était possible et c'est déjà arrivé à plein d'autres personnes. Donc moi j'ai perdu la moitié de mon salaire, j'ai dû continuer à vivre, à continuer à payer toutes les charges et les crédits et tout ça.
Vous n'avez jamais pu faire établir par un autre médecin cet épuisement professionnel?
Je suis passée en commission médicale. Et arrivé là, je suis tombée sur un psychiatre qui m'a dit que le burn-out n'existait pas. Mmh. En 2017, je suis repassée cette année et je suis retombée sur le même médecin qui m'a dit que ça n'existe toujours pas.
Alors, il est vrai que le burn-out
n'est
toujours pas reconnu comme maladie professionnelle. C'est incroyable en France, hein, puisque,
oui, oui.
Puisque vous allez en Allemagne. Non, mais vous allez même en Allemagne, à côté de chez nous.
Oui.
Et c'est quelque chose qui est totalement reconnu. Encore un exemple flagrant une ineptie plutôt, hein, que vous, infirmière, vous n'avez pas le droit à une autre appellation, vous voyez.
Voilà.
On n'est pas obligé d'appeler ça burn-out.
Non, mais dépression par épuisement professionnel,
Ouais.
Et du coup, il m'a dit, là, c'est une dépression. Je lui ai dit, non, c'est pas une dépression, j'en ai déjà fait, et avec des dépressions, moi, je travaille. Avec un traitement de psychothérapie, je travaille. Et là, je peux vous dire que j'étais dans l'épuisement. J'avais pris 40 ans en une journée.
Très dur.
Et là, j'ai fait une rechute le 24 décembre dernier. Donc, je suis de nouveau en arrêt.
On va en parler, si vous le voulez bien, à savoir comment vous en êtes sortie. Parce qu'en plus, vous qui êtes infirmière, vous êtes de la partie hein, médicale. Donc, on va évoquer un peu ce burn-out. Et puis, votre maman au milieu de tout ça, parce que ça n'a pas dû être facile non plus pour elle, hein, avec vous qui étiez... On se retrouve tout de suite, hein, Sophie, vous ne quittez pas.
Okay. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Et nous sommes avec Sophie, toujours, qui évoque le départ de sa maman le 17 décembre, il y a 2 ans. Donc, cette date qui approche, de cette date anniversaire de ce départ, Sophie. Mais vous évoquez donc cet épuisement professionnel que vous avez eu lorsque vous aviez pris la décision de garder votre mère chez vous. Ça a dû être très compliqué de vous soigner de cet épuisement professionnel en même temps que vous affrontiez déjà cette problématique de ne pas avoir de revenus hein, pendant cette période. Comment est-ce que vous avez fait ?
J'avais un demi-salaire, donc je me suis complétée avec tout l'argent que j'avais mis pour ma retraite.
Ouais.
Et en même temps, vous savez, quand on aime quelqu'un, on voit pas. On a la tête dans le guidon et puis on trouve toujours la ressource nécessaire. Et vous voyez, je vais vous faire je pense toujours, moi, c'est les gens qui ont, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient dans les camps de concentration, ils n'avaient pas à manger, ils étaient dans les pires conditions, ils étaient battus, enfin, dans tout ce qu'on sait. Et il y en a qui s'en sont sortis parce qu'ils avaient la volonté de s'en sortir et qui sont passés, ils ont eu, entre guillemets, une certaine chance de ne pas être plus tabassés que les uns et les autres. Mais c'est l'esprit qui a fait avancer leur corps. Et ben moi, j'avais le même conditionnement. J'avais envie de me lever, donc j'y arrivais. Ça me prenait. Et c'est pour ça que même 2 ans après, je ne suis pas encore remise à 100% puisque je suis toujours en arrêt.
Mais êtes toujours en arrêt suite à à cet épuisement.
Ouais. Ouais. Voilà, j'ai repris pendant 10 mois et j'ai flanché parce que je n'ai pas pu continuer plus mon travail, même en m'étant thérapeutique. Et je trouvais, et maintenant avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu, en étant totalement épuisée, des fois j'arrivais même plus à me faire à manger. Je me levais, j'étais comme si j'avais pris 40 ans d'un coup. Monter 3 marches et j'étais dans l'épuisement total. Oui. Réfléchir, c'était impossible. Prendre des décisions, encore moins. Et pourtant, j'arrivais à le faire. Et surtout le week-end où je disais aux auxiliaires de rester, de prendre leur week-end. Donc là, j'étais toute seule avec maman. Et j'arrivais à m'en occuper. Mais dans la dernière année, elle était de plus en plus fatiguée et donc elle dormait, vu la maladie, elle dormait quand même assez souvent. Et ben, dès qu'elle dormait, moi je dormais. Dès qu'elle s'éveillait, je m'éveillais. Mmh. Donc en fait, je dormais dans le canapé lit du salon. Ça m'évitait de descendre à chaque fois de mon étage parce que sinon, si elle faisait du bruit, j'étais inquiète et je redescendais. Mais c'est en nous. C'est comme une mère qui entend son petit se réveiller la nuit. Elle n'a pas besoin de réveil pour être sûre quand elle va l'entendre pleurer.
Oui.
Et ben voilà, c'est le même truc. On devient parent de son parent.
C'est l'instinct de vie.
Voilà.
Mmh. Et cet instinct après, de vie, vous a maintenu en fait.
Voilà.
Mmh. Et vous me disiez que vous aviez rechuté il n'y a pas longtemps.
Oui, j'ai rechuté le 24 décembre dernier. J'étais au travail et j'étais totalement épuisée parce qu'en plus, dans la foulée, j'ai perdu la sœur aînée de maman de la même maladie, mais qui, elle, était en maison de retraite. Et j'ai accompagné le plus possible ce que je pouvais faire en allant la voir le plus régulièrement possible, tous les 2 jours, 2-3 jours, ma tante. Et puis, elle est morte 1 an, jour pour jour, après sa sœur.
Et donc, les 2 dernières années n'ont pas été faciles émotionnellement.
émotionnellement, au niveau travail et au niveau finance, parce que même encore maintenant, je m'en sors pas, quoi. J'ai du mal à remonter la pente.
Vous êtes infirmière en milieu hospitalier, vous m'avez dit. Vous en êtes où de votre carrière, là? Vous avez
Suis à 5 ans de la retraite, je suis à 52 ans, donc je suis à 5 ans de la retraite.
D'accord, donc cela fait combien de temps que vous êtes infirmière?
En fait, j'ai commencé comme ASH, aide-soignante, donc j'ai commencé en 85.
D'accord.
Et j'ai réellement eu mon diplôme d'infirmière en 94, donc j'ai fait tout... Depuis l'âge de 18 ans, je suis dans les hôpitaux, quoi.
D'accord.
Même avant.
Et c'est indiscret de vous demander combien vous gagnez, comme ça, presque en fin de carrière?
Là, je suis, je suis à 2100 euros, voire 2200 quand il y a les week-ends, mais comme je ne travaille plus là pour l'instant, 2100 depuis 1994 en tant qu'infirmière, en sachant que j'ai pris trois disponibilités pour études. Je me suis formée par moi-même sur des diplômes qui ne me servent à rien, parce que je n'ai pas eu les places que je recherchais, parce que j'ai un diplôme plaie cicatrisation, c'est-à-dire tout ce qui est compliqué, les plaies diabétiques, les plaies d'ulcères. Et je me suis formée, j'ai fait aussi du libéral, et puis j'ai fait aussi de la médecine du travail. J'étais prête à payer le diplôme qui coûtait 3000 euros, et puis on m'a dit que j'avais pas assez d'ancienneté en médecine du travail, donc c'était pas la peine. Donc j'ai laissé tomber la médecine du travail pour revenir sur le milieu hospitalier. Voilà. Donc ça fait que j'ai pas normalement le salaire que je devrais avoir. Je devrais tourner normalement vers 2005, je pense. Voilà.
Comment...
C'est vrai qu'on n'est pas très cher payé
vu le boulot que vous faites. Comment est-ce que vous jugez cette situation en ce moment à l'hôpital, en fait, parce que
ils ont raison au niveau pour le milieu hospitalier de faire grève, mais il n'y a pas que les urgences. Moi, j'ai travaillé aux urgences, ça a été le service le plus facile de ma carrière, bizarrement. Et c'est tout le domaine hospitalier. Il faut penser aussi bien aux ASH, aux aides-soignantes, aux infirmières, et puis revaloriser toutes ces professions. C'est pas faire une prime, comme j'ai entendu, pour la région parisienne, et puis pas que pour les jeunes. Les jeunes, déjà, ils sont de niveau A maintenant. Moi, je suis niveau B, catégorie B. Donc, elles vont travailler plus longtemps que nous, mais elles auront un meilleur salaire que la catégorie B. Mais il faut revaloriser, parce que franchement, quand vous voyez que certains métiers qui n'ont pas fait 3 ans d'études, ils sont déjà à 1700, 1800 euros en débutant. Moi, j'ai eu ça. La dernière fois que j'ai eu 1800 euros, et ça date de il y a 8 ans.
Oui, c'est ça. Donc, c'est que les salaires sont vraiment au plus bas chez les infirmières.
Voilà. Ouais. Et quand on est payé un week-end, c'est le dimanche où on est payé. Sinon, le samedi, c'est payé comme un jour normal. En plus, maintenant, ce qui revient de plus en plus, c'est de nous demander de faire des nuits.
Votre épuisement professionnel, justement, on peut y voir une relation de cause à effet, là.
Oui, ouais. Oui, tout à fait.
C'est devenu un métier quand même éreintant aujourd'hui.
Éreintant, et surtout, moi, j'avais travaillé dans des services où on avait une bonne relation avec nos cadres, avec les médecins. C'était vraiment, on était à l'écoute. Là, je suis tombée à un endroit où... on nous écoute pas, on nous rajoute toujours des patients qui ne correspondent pas au service, toujours plus de paperasserie. Une fois, moi, j'avais mesuré il y a de nombreuses années, on restait 10 minutes auprès d'un patient sur 8 heures.
Non, moi, je crois aujourd'hui, vu la situation, de ce que j'ai entendu, c'est que ceux qui devraient diriger les hôpitaux devraient être des médecins, en tout cas des gens qui connaissent les problématiques de santé et les soins qui vont en découler, si vous voulez. Et j'ai l'impression que le problème, il vient aussi pas mal de là. C'est que les cadres, vos cadres, comme vous les appelez, parfois, n'ont pas, vous voyez, ils jaugent pas vraiment bien les situations, ce qui fait que c'est vous qui, au bout de la chaîne, dégustez, en fait.
Oui, parce que nous, on est les derniers éléments. Hein. Mais bon, les cadres aussi, on leur met une pression de plus en plus. Hein.
Ah,
il y a,
ça,
c'est
je
la
sais,
réunionnite
je
aiguë
sais,
hein, maintenant.
Ouais.
Les cadres, c'est réunionnite aiguë. Hein.
Mais, ouais.
Mais en plus, il y a. Alors, je ne vais pas me faire des amis, mais dans la nouvelle génération d'infirmières, elles ne sont pas aussi motivées que nous, on était. Quand nous. À l'époque, on avait une qui venait pas l'après-midi, et ben on se disait bon, qui va remplacer, qui va faire une journée continue, c'est-à-dire on va se repayer 8 heures de travail aussi intensif. Là maintenant, si on change à la dernière minute, c'est au secours, on va appeler les syndicats ou je ne sais quoi. Non non, c'est on n'a plus la même façon de travailler, on n'est pas. Alors moi, c'est une passion mon travail, parce que même là, je me dis, est-ce que je vais chercher pour changer de travail? Mais j'y arrive pas, parce que je retombe toujours sur ce. J'ai besoin de donner, et quand je donne, je reçois, quoi. C'est tout. Donc, en même temps, vous voyez, je me suis occupée de ma mère parce que je me suis tellement occupée de gens à l'hôpital que je me disais, mais ça serait un comble que je puisse pas m'occuper de ma mère. Et quand c'est arrivé, bon, bah, ça a été une évidence pour moi.
Oui, et ça a été une évidence parce que vous aviez aussi cette habitude et surtout cette vocation. Cette vocation qui est le métier d'infirmière, parce que vous ne m'empêcherez pas de penser que pour faire ce métier, encore aujourd'hui, même si l'hôpital a beaucoup changé, hein, et comme vous le dites, puisque ma belle-mère était infirmière de nuit, et je vois entre ce qu'elle me décrit aujourd'hui de ce qu'était son travail, il y a quelques années, hein, il y a 15 ans encore, et l'hôpital d'aujourd'hui, il est certain que les conditions de travail ont énormément changé. Donc on peut y voir la baisse de motivation de ces jeunes infirmières que vous décrivez. Vous ne pensez pas ?
Alors, les conditions se sont dégradées parce que, on va dire, on nous enlève des lits. Alors, on ne peut pas... Du coup, on fait... les patients ne sont pas encore sortis, qui sont déjà remplacés. Mais en même temps, on a des nouveaux... du matériel sophistiqué. Les perfusions, vous voyez, avant, elles étaient en verre. Maintenant, elles sont en plastique. Donc, c'est léger pour nous. Donc, moi, j'ai connu les lits où il y avait des manivelles pour lever le lit. Maintenant, c'est électrique. Donc, on a tous, ceux de ma génération, on a souvent le dos cassé quand on a été soignante parce qu'on a soulevé les patients. Alors, dans un côté, on a des améliorations. Et c'est génial. Et puis en même temps, là, maintenant, c'est comme à un moment donné, je me rappelle que moi, j'ai travaillé en diabéto. En juillet et août, on fermait le service. Et du coup, on allait soit en vacances, soit on travaillait dans d'autres services. Et on devait dispatcher nos patients. Mais en même temps, pendant juillet et août, pour faire tourner, puisqu'il y avait quand même une partie des infirmières et le reste du personnel qui partait en vacances, il fallait bien. Mais de là... Ça remonte déjà à 20 ans, hein, ce problème-là, 20, 25 ans.
Mais en tout cas, Sophie, je vous souhaite bon courage pour ces 5 dernières années qui vous restent, mais vous semblez encore en avoir du courage.
Et,
surtout, la première chose, hein, c'est de bien se rétablir de cet épuisement. Hein.
Ben ouais, je fais tout pour.
Je sens ça. En tout cas, merci pour votre appel au 3921. Et puis, encore une fois, bon courage pour la
merci
suite,
beaucoup.
Cette suite en hôpital. Merci, au revoir Sophie.
Merci bien, au revoir.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.